Monsieur Évariste Dignito, bonjour.
Oui, bonjour Armando.
Un atelier sur la sous-traitance dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, les acteurs de BTPE, à organiser cette rencontre?
Une sous-traitance, c'est le fait qu'une entreprise donnée confie partiellement sa production à une autre dans le cadre d'un travail. Donc c'est un contrat qui se fait entre une entreprise qu'on appelle titulaire, qui a gagné le marché, et un autre qu'on appelle sous-traitant. Qu'est-ce qui nous a motivés à faire cet atelier-là? Vous savez que l'atelier vise les enjeux d'une bonne politique de sous-traitance. Et avec la crise que nous avons connue, les entreprises de BTP sont affaiblies. Ce qui fait que dans le contexte des grands marchés d'infrastructures, les sélections sont contraignantes. Et donc, la sous-traitance reste la seule voie par laquelle les PME et TPE de la République centrafricaine peuvent espérer gagner une part de ces marchés. C'est pour que quand il y a des gros travaux qui arrivent dans notre pays, même si nous ne satisfaisons pas aux conditions d'accessibilité à ces marchés-là, parce que compte tenu de notre faiblesse de structure et autres, mais que la clause de sous-traitance nous soit favorable et nous permette au moins d'avoir une part de ces financements.
Oui, alors, mais la sous-traitance, comment est-elle pratiquée en République centrafricaine selon vous?
La sous-traitance chez nous est régie par le code des marchés publics. La sous-traitance n'est pas exigée, mais elle est une possibilité. Mais dans cette possibilité-là, il y a des critères d'avantage aux titulaires qui sous-traitent les travaux. Et pour des marchés d'envergure, les procédures, que ce soit de l'État, des autres partenaires techniques et financiers, acceptent que 30% de ces marchés-là soient sous-traités aux entreprises locales. Mais malheureusement, souvent, les 30% de ces marchés-là ne sont pas sous-traités aux entreprises locales. Et c'est pour cela que nous voulons qu'il y ait une discussion pour que, dorénavant, quand il y a des chantiers d'envergure, que réellement cette règle-là soit respectée.
Que fait l'État en ce qui concerne l'environnement juridique pour vous garantir de facilités de crédit, par exemple?
Il y a un cadre juridique qui doit exister dans une collaboration de sous-traitance. Il faut qu'il y ait un contrat entre le titulaire et le sous-traitant. Et ce contrat doit préciser le volume du travail que le sous-traitant doit réaliser, les conditions dans lesquelles il doit le faire, les conditions de paiement et tout ça. Donc, c'est déjà le cadre juridique. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que les règles de sous-traitance telles que prévues par la loi soient au moins appliquées. Et c'est la question de l'applicabilité des règles de sous-traitance qui sont déjà encadrées par la loi qui pose problème.
Et donc, vous voulez faire allusion à la corruption, au népotisme qui gangrène ce milieu?
Non, on ne veut pas faire allusion à la corruption. C'est une question de pouvoir appliquer les règles de la sous-traitance, c'est-à-dire lorsqu'il y a un chantier d'un montant, par exemple, de 40 milliards, de 30 milliards, qui est attribué à un multinational, que réellement les 30% reviennent aux structures locales. Dans les faits, cela ne se fait pas.
Pourquoi?
Mais cela ne se fait pas tout simplement, et c'est pour cela que nous faisons l'atelier. C'est pour voir qui devait faire quoi pour que les règles de sous-traitance soient appliquées correctement, comme le prévoit la loi. Notre loi n'est pas orpheline de ça. Elle n'est pas pauvre. Elle prévoit effectivement toutes les dispositions de sous-traitance. Mais maintenant, vous savez, toute loi, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit appliquée. Et donc, c'est pour cela que nous nous disons que toutes les parties prenantes puissent se retrouver, discuter et définir les responsabilités et voir comment, dorénavant, les règles de la sous-traitance peuvent être respect.
Vous vous plaignez de l'inadéquation des taxes douanières pour le matériel d'équipement et des matériaux de construction relatifs à l'exécution des marchés. Que préconisez-vous dans ce domaine, monsieur?
Au fait, on avait des plaintes et autour de ces plaintes, nous avons eu des débats, des discussions au cours d'un atelier avec le ministère des Finances. Et au cours de ce débat-là, on avait fait des recommandations pour lesquelles le ministre des Finances à l'époque, qui est aujourd'hui premier chef du gouvernement, a accédé à certaines de nos revendications. Maintenant, la mise en application, il faut un suivi. Et nous sommes en train de suivre ça avec la douane. Concrètement, ça concerne quoi? Vous savez, les matériels dans le BTP sont excessivement chers. Et La loi de finances permet seulement l'exonération sur du matériel neuf. Or, nous n'avons pas les moyens d'acquérir du matériel neuf, un bulldozer qui coûte 300 millions et autres. Or, nous, les entreprises locales, pour la plupart du temps, nous achetons du matériel d'occasion. Des bulldozers coûtent 50 000 euros, 80 000 euros. Et donc, nous voulons qu'il y ait vraiment une disposition qui puisse exonérer ou bien avoir des taxes de douane quand même plus ou moins supportables pour que les entreprises de BTP, lorsqu'ils commandent ces matériels d'occasion-là, qu'ils puissent pouvoir au moins bénéficier de la faveur de la douane à ce niveau-là.
Oui, dans ce domaine également des travaux publics, les entreprises nationales se plaignent du fait que les banques de la place ou les organisations internationales, voire le gouvernement, leur octroient difficilement du marché. Où se situe le blocage?
Ce n'est pas à ce niveau, c'est le problème de soutien, de garantie, des crédits qu'on peut accorder, des facilités qu'on peut accorder à une entreprise pour pouvoir soit conforter son matériel, acquérir du matériel ou bien organiser son entreprise. Vous savez que les conditions d'accès au crédit sont très contraignantes et les banques aussi, du fait que les banques gèrent les dépôts des clients, sont très exigeants en ce qui concerne les mises en place des facilités. Le secteur privé a toujours demandé qu'il y ait un fonds de garantie qui puisse accompagner les opérateurs économiques et donc c'est à ce niveau-là qu'il y a la plainte et donc des discussions sont en cours, encadrées par le CMC2A, le climat des affaires, des discussions avec l'État, le partenariat public-privé, pour qu'il y ait une solution à ce niveau-là, pour que les banques puissent comprendre aussi les opérateurs économiques.
Monsieur, le pays a un manque criard de personnel qualifié pour répondre à certaines prestations. Existe-t-il un centre de formation pour renforcer, par exemple, les capacités de main-d'œuvre locale qui ont appris sur le tas?
Alors, le problème ne se pose pas véritablement à ce niveau-là, parce que l'expertise s'acquiert par la pratique des choses. Et vu que les grands travaux ne viennent pas régulièrement dans notre pays, c'est ça qui fait qu'il y a un manque d'expertise. Mais nous pensons que si le pays se remet de ses difficultés sécuritaires et qu'il y a une vraie vision politique pour pouvoir donner un coup à l'économie, les travaux vont envahir le pays, il y en aura, et donc les entreprises pourront avoir beaucoup de chantiers à faire et à force de le faire, ils vont grandir dans la pratique. Ça, c'est de un. Deuxièmement, la question de la maîtrise d'œuvres techniques en ce qui concerne les ressources humaines ne se pose pas. Du fait que nous vivons la libéralisation. Vous êtes une structure locale, mais vous pouvez importer de la main-d'œuvre.
Mais vous avez aussi l'accompagnement de FAGAS, un fonds africain de garantie et de coopération économique. Comment cela se fait à ce niveau, monsieur?
Les opérateurs économiques ont le sentiment qu'on veut bien mettre les fonds, mais on ne veut pas les mettre. Parce qu'on met les fonds, mais derrière, les conditions sont telles qu'on ne peut pas avoir accès à ces fonds-là.
Comme quoi?
Mais on vous exige beaucoup de garanties. Par exemple, à niveau de financement égal, vous devez pouvoir opposer 120% de ce montant-là en termes de garantie. Malheureusement, ces fonds-là sont inaccessibles. La preuve, vous voyez, ces fonds-là sont là disponibles, mais personne ne les prend. Et donc, nous voulons qu'il y ait un allègement à ce niveau-là.
Monsieur Évariste Dignito, merci.